a planté. Essai de Christian Dominici, c'est un génie.
Essai.
Pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pas s'y fier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but.
Et troisième but.
But d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute.
Chute de Mélenchon, juste devant Armstrong. Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Shepard est parti. L'Express, le TGV est parti. Shepard, 9,58. Record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France. Alors, il se défonce car la ligne est encore loin.
Est-ce que tu as été voir du sport ce week-end?
Ouais, je suis allé faire un petit tour du côté du stade de Roger Rochard.
Bien, t'as retenu le nom.
Tiens, tu vois. Voir le AC Rugby, rapidement.
Ah bon?
Ouais.
Ouais, tu nous as lâchement abandonné avant que je fasse mon entrée en jeu.
Ouais,
ça,
j'étais déçu, mais je pouvais pas rester plus longtemps. Donc,
ouais, tu préfères aller voir l'apéro?
Écoute, hein, chacun ses priorités. Hein. Non, moi j'ai trouvé ça un peu froid, l'éloignement du terrain.
Voilà. Ouais, il y a une piste d'athlée, ouais, mais c'est plutôt agréable d'avoir joué sur une belle pelouse et puis surtout d'avoir joué devant une tribune où il y avait un peu de monde, il y avait 400 personnes peut-être, qui résonnent fortement quand même. Dès que ça criait un peu, ouais, ça arrivait au terrain.
On avait l'impression de vous voir tout petit.
Bonjour Alex.
Bonjour.
Alors tu vois là, faut parler devant le micro.
Il faut parler dans la sucette.
Je suis trop petite.
Bon, tu peux incliner le micro. Voilà.
D'accord.
Et Gonzalo, qu'avez-vous vu ce week-end?
Bah moi, je dois l'avouer, j'aime l'herbe. La verte, la belle, la bien droite, la turgescente, légèrement humide. Il y a un problème, Brandon?
C'est pas possible, là, monsieur Gonzalo. On n'a pas le droit de parler comme ça.
Qu'est-ce que j'aurais préféré que je dise? Je dois l'avouer, j'aime le gazon légèrement humide?
Non plus, c'est pas toléré non plus.
Bon, alors je reprends. Je dois l'avouer, j'aime bien le terrain d'honneur du stade Roger Rochard dans le parc des sports Jean Bouin. Ça va? C'est mieux?
C'est bien.
Bon, toujours est-il que, Brandon, tu l'as compris, où j'ai passé mon samedi soir. J'étais pas le seul. On était 1247 spectateurs pour le AC Rugby, 13 pour l'EFC 27 et 409 pour la presse libre et indépendante. En plus, c'est plutôt chouette de voir 30 rugbymen s'ébattre en liberté sur un terrain habituellement réservé aux pousse-cailloux. Puis ils sont rentrés dans le chou, librement, sans retenue. Deux petites générales, un bon enfant, des petits marrons de ci, de là. Hein, c'est presque de saison. 5 essais. Petit bémol, moi à 9h30 j'avais un petit peu froid.
Soif, je crois que
non,
j'ai
soif, on avait fait ce qu'il fallait la veille. Non, j'avais un peu froid au pied. Bon. Bon, je te l'ai dit, moi j'aime les dimanches digestifs auprès Margot. Tu sais, côté
Iton.
Voilà, côté Iton.
Côté tribune populaire.
Exactement, parce que d'ailleurs, toi, mon cher Brandon, tu m'as semblé bien seul en première période avec ton bâton à la main.
Oh là, je me suis ennuyé copieusement, il n'y avait personne pour raconter des conneries dans mon dos. Pierre Tombal n'était pas là.
Exactement. Alors, pour avoir discuté après coup avec plusieurs assistants, ils affichaient tous un sourire de la victoire et puis le contentement d'avoir évolué sur une aire de jeu digne de ce nom.
Bah, c'est quand même plus agréable et plus facile de jouer. Pour avoir vu les minimes l'après-midi qui jouaient sur le même terrain, qu'on failli se noyer 4 fois, et à qui on a demandé le diplôme de 50 mètres avant de rentrer sur l'aire de jeu quand même.
Bah d'ailleurs, il y a quelques gaillards qui ont été surpris parce qu'ils ont glissé, ils ont dû modifier légèrement leur prise d'appui. Hein. Les gazelles, elles frétillaient de bonheur dans cet herbage un peu luxuriant. Ils ne regrettaient pas vraiment la savane aride du pré-Margot. Alors, je ne sais pas si c'était le suspense ou le plaisir, mais même Franck Deléger était dithyrambique.
Oula.
En fait, non, il était en colère. Alors pourquoi? Parce que les footeux, ils veulent plus prêter leurs joujoux. Non, ils veulent plus. Ils veulent que ce soit. Il n'y a que eux qui ont le droit de l'abîmer. Égoïste, toi.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas les footeux qui ne veulent pas, c'est la ville qui ne veut pas payer des heures supplémentaires à son personnel pour faire passer le terrain.
On n'a pas le droit de le dire ici.
Non, mais moi j'ai le droit de le dire. pour faire passer le terrain de rugby en foot en une demi-journée. Voilà.
On va passer au résultat. Donc, EAC 20, La Roche-sur-Yon 13 en rugby, donc troisième victoire consécutive qui envoie pour le moment l'EAC à la cinquième place avec 6 équipes derrière. Ce qui n'est pas trop, parce que pour rappel, il y a 5 clubs qui seront guillotinés et qui descendront en honneur.
On arrête le championnat ce soir.
Alors, football national, Cannes 0, Passy 0, il paraît que c'est une bonne affaire. Passy 13e, on s'en fiche un peu. Le FC, lui, a battu Saint-Omer, et si ça vous intéresse, vous avez qu'à acheter le journal. Hein, parce qu'ici, on n'est pas très foot. Basket, t'aimes bien quand je fais mes pages foot. Hein.
Ah, j'adore ça, et puis surtout quand il n'y a pas Damienski et Dave pour. Non, ça me manque un peu, ils ne sont pas derrière leur micro qu'on coupe et qui râlent dans tous les sens et gesticulent leurs bras dans tous les sens.
C'est un peu ça. Basket Clermont ALM 99-104. J'ai lu évaluation record pour Reed de 37, ce qui démontre quand même une activité incessante aux deux coins, enfin aux deux côtés du terrain.
Les deux ricains qui sont arrivés ont dû marquer 60 points aux deux quasiment sur les 100 et quelques unités ou 55. Donc on va dire pour l'instant plutôt bon recrutement, bien ciblé.
4 matchs, 4 victoires et donc une première place partagée avec Dijon. Donc ce soir le derby, le duel chez les méchants rouennais en Coupe de France. Et vendredi le derby, le duel contre les méchants rouennais toujours, mais au centre Omnisport. Volley, je crois qu'on y reviendra plus tard. Je crois que le VB a pris une trempe et pointe actuellement au 7e rang. C'est bien ça, non?
Oui, c'est ça.
C'est quoi, trempe ou 7e rang qui te va bien?
Trempe.
Hand, balle, comme tu me l'as fait remarquer la semaine passée. 7e journée, nouvelle victoire du SMV contre Nancy. Comme quoi, il est possible de battre Nancy, hein, Alex.
au grand malheur de Tanguy.
28-22. Et tranquillou, les amis Vernonnet s'installent à la 4e place, ce qui est pas mal pour un accédant en 2e division. Athlétisme enfin, les filles de l'EAC ont raté le podium des interclubs jeunes à Mulhouse. Alors mon informateur, je l'ai rencontré ce matin à 9h05, c'était Raspoutine, je crois, je sais pas si tu connais Raspoutine. Et il m'expliquait que les filles sont tombées à 60 points du podium et malheureusement la jeune fille qui devait faire le 3000 a été malade, ouais. Donc a fait une performance catastrophique.
Grosse contre-perf au 3000 et puis 60 points c'est sur pour restituer c'est sur 7000, donc c'est vraiment un faible pourcentage.
Avec une course normale il y avait 2 ou 3, enfin, médaille d'argent, médaille de bronze.
Voilà, possibilité, ouais. C'est dommage.
Voilà pour moi.
En rubrique hand, je tiens à signaler la victoire de Saint-Sébastien Sport.
Moi, je fais que le national.
Ouais, voilà, je sais bien, ouais, mais désolé, à Évreux, on a que ce club-là autour d'Évreux. Victoire à Saint-Sébastien à Montville. Et ben, on enchaîne en musique et puis on se retrouve après pour plus ample information. Allez.
Let me hear say bang, bang. Let me hear say pow, pow. Pow to the people.
Eh ben allez, on va tout de suite changer de continent et de pays. On va déroger un peu à la règle. On va prendre la place de Bernardo qui reviendra un peu plus tard pour sa chronique de l'ABCDR. On en était à la lettre F, si j'ai bonne mémoire. Mais tout de suite, on accueille dans les studios, c'est avec un peu de plaisir, on a Alexandra, donc Rochelle, joueuse de l'EVB qui arrive... d'Albi, donc on va parler rugby, ça tombe plutôt bien. Bonjour Alex.
Bonjour.
Et puis notre spécialiste arrivé tout droit de ses terrils, Loïc Lantoine.
Et bonjour.
Bonjour, et François.
Et bonjour.
Vous êtes vous déplacez tout le jour par paire, un peu comme une seconde ligne. On vous voit tout le temps ensemble, ou quand vous venez à Évreux, au moins.
Bah, surtout pour parler rugby, sinon on n'est pas crédible.
C'est pour cumuler votre poids pour voilà, faire un rugbyman normal, d'accord. Alors, quand même, on va rapidement donner les résultats du top 14 avant de lancer un sujet qui t'intéresse grandement, Gonzalo.
Bah, pour moi, c'est une énigme. Donc je suis vachement intéressé par ce qui va se dire.
Alors, les résultats, il y avait Racing-Bayonne, victoire de Racing 15-9, victoire de Toulouse contre l'USAP. Alors pour une fois, il y a eu des points, 38-29, l'USAP rate le bonus défensif. Le Castres Olympique l'emporte contre Agen 38-11, Montpellier qui s'installe à la première place du classement général, gagne très largement contre le CS Bourgoin-Jallieu 28-3 et un François Trinduc en forme...
Quand est-ce que tu veux l'appeler normalement ce pauvre
Trinduc.
Garçon
Trinduc. Ouais, ça fait pas joli. On dit bien « il » en anglais.
Mais du français, garçon.
Allez, 28-3, ils sont premiers du classement et donc Trinduc, François de son prénom... en forme automnale, ce qui est plutôt bien avant les tests de la Toussaint, là, des vacances, des tests d'automne, la traditionnelle coupure automnale avec l'équipe de France.
La Rochelle. C'est la tournée où on se prend des valises, c'est
ouais,
ça?
Ouais, voilà. Non, pas toujours celle-ci, c'est celle d'été où on prend des valises pleines, mais c'est pour les vacances, c'est logique. La Rochelle qui gagne un match important contre Brive dans la course au maintien 26-21.
Chute fatale pour Brive, chute fatale.
Ouais, c'est depuis que Sébastien il est parti avec qu'il a remballé son petit bonhomme en mousse. Voilà, c'est la dégringolade. Le Biarritz Olympique qui l'emporte contre Clermont 16-13. Belle victoire du BO, importante. Clermont, bah c'est, on en parlait en Coupe d'Europe, c'est moyen. En championnat, c'est moyen. Y aurait-il de la suffisance du côté Clermontois?
Bah, il y a un siècle à attendre un titre une fois qu'il arrive.
Après ce bouclier gagné, voilà, de main de maître la saison passée. Et enfin, le Stade français qui gagne contre Toulon, 22-15. As-tu vu le match, Alex, par hasard?
J'ai vu que le début.
T'as vu que l'arrivée du ballon sur le terrain avec les grognards romains.
Même mes filles, elles ont dit « Mais c'est quoi? C'est n'importe quoi, ce truc-là ?»
Ah là, on est d'accord. sur le côté showbiz du Stade français qui n'en finit pas de surprendre, c'est pas des supporters, c'est spectateurs, on va dire, du Stade de France.
Mais ils avaient des beaux maillots quand même.
Ouais, ouais, des beaux maillots.
Ils sont au top de la mode. Hein.
Ouais, je sais pas. C'est au moins les couleurs. Ils parlent d'acheter les mêmes pour la DDE. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec... avec Loïc, on a eu l'occasion hier de parler rapidement rugby. D'où vient cette passion de l'Oval? Il y a peut-être parce que pour nos auditeurs, Lille, c'est pas trop une terre de rugby quand même.
Non, enfin, on a un club qui joue quand même à Armentières, là où je suis né, qui est une petite ville. Et après, je tiens à préciser que je suis content d'être là, je vois que cette émission bien menée. J'étais venu plutôt pour le côté café que pour le côté sport, parce que le genre d'imbécilité que j'ai pu sortir hier avec beaucoup d'assurance est évidemment est ruiné en arrivant ici chez des...
chez des puristes, faut le dire.
Je m'amusais sur un vieux débat, parce que je vais tout de suite en parler. C'est un copain avec qui j'avais une grande discussion, qui est un gars qui est entraîneur de rugby dans le Nord, et qui me confirmait que le rugby est un sport de paysans de droite. Et alors,
je ne suis pas d'accord.
Évidemment, vous n'allez pas être d'accord et que je vais m'en prendre plein la gueule. Je suis là pour assumer mes conneries d'hier soir.
Je suis absolument d'accord avec toi.
Non, ah bon, bah, tout va bien alors. Donc, je vais pas me faire péter la gueule par des gros costauds et donc tout va bien se passer si j'ai bien compris.
Tu l'as pas bien vu, hein, là il est assis.
En tout cas, c'est un sport où si nous on se met à vouloir être pilier ou à jouer, on se fait casser la gueule, quoi. Donc il y a.
Non, juste on part plus vite que le ballon, c'est tout. Mais donc voilà, en fait, c'est juste une. Et puis, parce qu'on en parlait hier, parce que mon camarade Cyril, guitariste des VRP, m'avait fait mon passe pour tous les festivals à venir. Où je suis avec un verre de blanc légèrement tremblant, en train d'affirmer avec force que le rugby est un sport de paysans de droite, j'en suis pas fier. On a ri avec ça hier. Et après, pour le reste, c'est juste, on est sur des sports de voyous, plutôt chez moi dans le Nord, c'est-à-dire le football, quoi, des sports de rusés et de ruseurs, et que le côté gentleman du rugby parfois peut m'agacer quand on dit oui mais regarde les gars du rugby, et c'est vrai qu'on n'est pas sûr. Et je sais pas si on verra un jour un gars du foot prendre la place de ministre chez Sarkozy comme Laporte a pu le faire, mais
ça serait rigolo Domenech ministre quand même.
Ouais, donc, en fait, pourquoi je dis ça, effectivement lui il est carrément en droite ligne, il est parti pour et dans la
il déjà a, il a le salaire. Allez. Il a le même salaire
et le même niveau de popularité donc tout effectivement, donc encore une fois j'ai rien dit. En fait, je suis venu pour annuler tous mes propos d'hier, mais qui n'ont pas été entendus par vos auditeurs.
Moi j'ai un débat. Pourquoi ce sport, qui est un sport où il y a des grands, des gros, des petits, des barbus, des pas barbus, pourquoi c'est un sport de solidarité au possible, pourquoi ce sport est de droite? On attribue généralement à la gauche cette espèce de solidarité entre les gens, les peuples, etc. Et pourquoi est-il de droite? Moi je me pose toujours la question.
Faut peut-être puiser dans l'origine du sport. C'est quand même un sport très rural à la base, et le monde rural a plutôt une tradition chasse pêche nature, pour reprendre les propos d'hier soir. Donc peut-être qu'on pourrait y voir une filiation, on va dire.
Je suis d'accord avec toi. La soule. C'était des luttes entre deux villages. Ça a un petit côté nationaliste avant l'heure, donc...
Bonjour, on dit bonjour, monsieur de Pontavel.
On dit bonjour, mon cher...
Raoul. Non, mais voilà, peut-être que voilà, l'origine. Après, pour reprendre historiquement, le rugby, c'est quand même le sport... Oui, j'ai un peu de rillettes dans la bouche, je le sais. Le rugby est un sport, on va dire, universitaire en Angleterre, à ses origines, et plutôt d'une classe élevée. À l'inverse du foot, qui était plutôt le sport ouvrier. Donc il y a peut-être aussi dans cette tradition.
Donc tu fais le raccourci entre universitaire anglais et paysan français?
Non, mais justement, je ne l'explique pas, mais voilà, par rapport au côté...
Sport universitaire en France, ouais, aussi. Hein. Dans les grandes écoles, il est très, très prisé. Donc tous nos chers dirigeants, nos chers cadres issus des grandes écoles nationales ont pratiqué le rugby, se sont encanaillés à se mettre des pings dans la tronche et à se prendre des grosses cuites derrière.
Ah, surtout prendre des grosses fuites.
Moi j'ai une question pour toi Alex, la saison passée, tu as joué plusieurs saisons à Albi ville. Ah quand même, ville de rugby et de volley, comment ça se passait dans la ville? Vous aviez une reconnaissance ou c'était tout pour le rugby?
Non, nous on avait une reconnaissance dans la ville. Moi on avait moins que les rugbyman, mais on en avait pas mal parce que nous on était les filles et on jouait en short, donc...
On avait une reconnaissance par les rugbyman.
On cherche les arguments, c'était bien légitime.
Mais oui, mais on s'entendait très bien avec les rugbyman.
C'est une info. C'est la première info de ce Café des Sports. Il est 12h38, c'est la première info.
Bon.
C'est un appel au peuple, hein, je crois. Les rouges et blancs avec un peu de vert là, qui se prennent pour des basques et qui jouent pas loin de Liton.
On n'a pas trop le droit au.
Pour y être apprécié aussi des volleyeuses.
Ouais, mais le vert nous va bien.
Moi, ça a un côté lusitanien, j'ai trouvé, moi.
Bah, ça fait plaisir à Dacruz, effectivement, les couleurs. Allez, pour revenir avec Loïc, t'as parlé rapidement de foot, on va peut-être revenir après, mais alors plutôt. Supporter lensois ou plutôt supporter lillois?
Ah bah lensois, moi complètement, j'habite à Lille, hein, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs beaucoup... je suis né à Armentières, qui est un petit peu au nord de Lille, et, mais de tradition, je sais pas, tout le monde est évidemment... finalement les dogs, il y en a pas tant que ça, Lens est une petite ville mais qui a plus de supporters, bien plus de supporters que Lille... Après, bon, bah, c'est une histoire d'état d'esprit aussi. Hein, Lens, on a la chance là, d'avoir un club qui est un des plus aimés avec Saint-Etienne. Il y a qu'avec Lille que ça se frite en fait entre Lens et Lille.
Mais en fait, c'est pas une confrontation sociologique. Lens, les travailleurs, les mineurs, Lille, les gens de la grande ville.
On n'est pas du tout sur. C'est pas Saint-Etienne-Lyon. C'est plutôt, à la limite, ils sont encore plus bourrins, les supporters de Lille. C'est pas le même schéma.
Vas-y, ils nous écoutent pas, tu peux y aller.
Ils s'appellent les Dogs déjà, tu vois le truc. Encore une fois, c'est pas du tout Saint-Étienne-Lyon. Je sais pas à quoi ça tient. Puis je m'en fous, mais sans et hors, c'est beau, et puis on se marre bien à Bollard. Il faut voir en plus la ferveur qu'il y a aussi, parce que les gens, quand ils ont à choisir, tu réfléchis pas longtemps, tu sors de la gare de Lens, à côté il y a une friterie aux couleurs du club et ça s'appelle le Lens Frite.
Et une question essentielle, dans le stade il y a de la vraie bière ou c'est de la sans alcool?
Je sais pas, on arrive torché donc... on fait pas la différence.
Bon, et toi François, plutôt... Lens ou plutôt Lille, tu peux être différent ou toi t'en as rien à faire?
Moi plutôt PES, moi.
Ah oui, c'est vrai. On a un souvenir de quelques parties endiablées l'an passé.
Non, honnêtement, je suis ni foot ni rugby, je suis plutôt ping-pong. Je veux bien parler ping-pong, mais je crois que.
Je crois que tu es tombé sur un très bon sujet.
Moi, on m'a juste dit ce matin que tout d'un coup, on avait une radio sur le rugby. J'ai dit, j'ai absolument rien à dire sur le rugby.
Mais c'est gentil de le dire, en tout cas.
Après, ça a l'air d'être un sport avec une philosophie très élégante par rapport au football, effectivement. Donc, ce débat m'a bien intéressé, me fait bien réfléchir. Mais je pars en me disant que c'est... Alors, finalement, effectivement, ce sera un sport de droite. Hein, voilà.
Ce qui ne veut rien dire, mais on s'est amusé à ça hier. Et en plus, vous l'avez brillamment confirmé, ce que j'avais dit, histoire de me prendre un gros point dans la gueule. Et en fait, vous confirmez mes délires. C'est impeccable.
En tout cas,
Non, je t'en prie.
Vas-y, j'y vais. En tout cas, moi, c'est un sport que j'aurais bien pratiqué, mais j'ai fait la bêtise de penser que quand on était maigrichon, on pouvait pas jouer au rugby, ou du moins, peut-être que je suis juste un couard. Hein.
Eh ben,
on peut te laisser là-dessus.
Je crois que ça pourrait être le mot de la fin pour cette partie. On va enchaîner en musique, puis on va retrouver le VB, Bernardo, Raoul parmi nous, et puis peut-être Loïc pour un dernier passage en musique, et puis parler un peu de cyclisme. Je crois que t'aimes bien le cyclisme. Allez.
Ah oui, moi aussi.
Et bah, c'était quoi, Gonzalo, s'il te plaît?
Quoi,
oh, allez, mais c'est pas pour moi, c'est pour nos auditeurs. Allez, parle un peu.
Joy Division.
Voilà, merci. Parce que nous signalons que sur le nouveau site, vous pouvez avoir le nom des artistes qui passent, mais pas pendant les émissions. Donc, évidemment, il faut compléter un peu. On va clore ce petit intermède avec Loïc et François en parlant peut-être d'un sport qui t'a. D'une rencontre qui t'a marqué hier à Évreux. Celle avec Criquet, bien connu par nous autres camarades du Café des Sports. Tu as parlé du poste de gardien de but au hand. Tu trouvais ce poste un peu surprenant?
Ah bah bon, mais c'était vraiment hyper intéressant ce qu'il m'a raconté. Moi j'ai toujours pensé que c'était après gladiateur, après cycliste et après c'était gardien de hand, le truc qu'il fallait pas faire.
Il y avait gym aussi quand t'étais gamin.
Non mais je comprends qu'on en fasse quoi. Mais gardien de hand, là je comprends pas. Un mec qui se prend des ballons qui arrive à je sais pas 100 km/h dans la gueule. Et il m'expliquait que ça ne se fait pas et qu'un gardien de hand se prend pas un ballon dans la gueule sauf si le gars s'est planté. C'est-à-dire à petit niveau ça peut arriver mais c'est une erreur. Mais par contre moi j'étais persuadé que le gars il hésite. Il se dit le mec il me gêne, je lui tire dans la tronche et il a plus le choix ou je meurs avant 50 ans d'une rupture d'anévrisme ou j'arrête le goal quoi, enfin le ballon. Et c'est pas ça du tout ce qu'il m'a expliqué. Apparemment ça se fait pas, il y a des possibilités. Alors
j'ai cru.
Et j'ai cru, ben voilà. Donc, en fait, si vous avez besoin d'un bonnet dans l'émission régulièrement pour poser des questions sur le sport, moi j'ai cru ça et j'ai dit, mais ça, pour le coup, ça, t'es un sport de gentleman. Alors il m'a dit, mais oui, parfaitement.
Parce que plus bourrin que le hand, il y a pas trop quand même. Hein.
Et ben voilà, j'ai tout avalé, j'ai tout cru. Donc c'est faux alors ce qu'il m'a dit.
Ah bah oui. Ah bah oui.
Nous de l'image qu'on en avait, c'était
faux. C'est un principe avec lui. Il te dit un truc, sache que c'est le contraire, la vérité.
D'accord.
En tout cas, encore une fois, le ping-pong, le ballon est plus petit et le terrain est moins impressionnant.
Alors, pour la petite anecdote, on va t'expliquer l'histoire du tennis de table à Évreux. En bref, il y avait un club qui a été double championne de France et il est mort parce que plus d'argent. Voilà.
Mais ouais.
Donc c'est un sujet tabou, on dira, au Café des Sports parce qu'on se fait pas que des amis quand on parle de balle orange, n'est-ce pas, Panzer?
On peut
petite,
le dire.
Petite pensée à toi. Et donc voilà, mais non, le tennis de table, on a eu l'occasion d'en parler plus longuement au Café des Sports avec des joueuses. On a appris la différence entre le ping-pong et le tennis de table. Et oui, il y a une différence.
Bah, c'est quoi la différence à part idiomatique?
Alors, selon Panzeroli, le ping-pong, c'est ce que tu joues l'été avec tes copains, avec un Ricard à la main.
Oh là là, c'est encore un sport, t'es en train de me dire que c'est un sport de droite aussi, le ping-pong.
Je crois que c'est la conclusion qu'il y a eu ces dernières semaines.
Le sport est une activité de droite. Bah, en fait, effectivement, sauf le foot. Et, il y a un paradoxe là.
On m'a dit au PSG, si c'est pas un sport de droite, je sais pas ce que c'est.
Ou au moins dans les tribunes.
J'ai bien aimé d'ailleurs, alors là pour le coup, moi c'était une émission brillante et je vous félicite. Je suis un amoureux des radios libres et alors là, le rythme, le machin et le fait qu'en glissant tu dises que ce sont pas des supporters qu'ils ont à Paris mais des spectateurs, c'est très intéressant et c'est bien envoyé dans les couilles de Monsieur Énergie et je trouve ça, ça m'a fait plaisir d'entendre ça.
Et puis en tout cas ça va faire évoluer les choses quoi. Aujourd'hui on a découvert qu'il n'y a que le foot qui était un sport de gauche et donc il n'y a que en étant de gauche qu'on pouvait gagner vraiment beaucoup d'argent si on avait beaucoup de chance.
Ah, c'est vrai que ce raisonnement oui, s'effondre quand on regarde les feuilles de paix.
Allez, on va enchaîner avec vous Monsieur Raoul. Il est l'heure de votre chronique hebdomadaire.
On est viré alors.
On vous remercie.
Vous n'avez pas parlé de mon autographe de Poulidor?
Ah non, on n'a pas eu. Peut-être pour la prochain concert.
Sur la peau directement.
Ouais, j'ai retatoué dessus. Ouais.
Allez, on vous remercie.
Bravo à vous et puis désolé encore.
Ah mais non, juste avant que vous ne partiez, quand même signaler que cet après-midi pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient vous voir, c'est possible. C'est à l'AMJC ou à l'abordage. À l'abordage club, masterclass ouvert au public. Donc n'hésitez pas, masterclass, vas-y, explique-nous brièvement le concept.
Aucune idée.
Et ben venez voir.
une partie de ping-pong sans ballon. Voilà. Ah.
Allez, on vous remercie d'être passé. Puis vous allez peut-être traîner dans les studios. tandis que Raoul fait un tour complet du comptoir. Pour une fois, il passe pas dessous. C'est plutôt rare pour le signaler, donc ni dessus. Et il ne monte pas ses fesses non plus. Allez, à vous, mon grand.
Bah écoutez, après avoir parlé de piqûres et de seringues avec Loïc juste avant, je vais rebondir sur sport et santé. Sport et santé, hein. Il n'y a qu'à voir les beaux échantillons qui sont dans le studio aujourd'hui. On voit bien que le sport conserve. Il n'y a pas de problème. On est tous en pleine forme et en bonne santé. Alors quand on était petit, on disait « Fais du sport, c'est bon pour toi, c'est bon pour ce que t'as. » N'est-ce pas, Gonzo?
Hein? Mais pourquoi tu t'en prends du voir à moi?
Donc voilà, on nous a inventé les mérites de la pratique sportive en nous disant qu'il y avait un esprit sain, un corps sain et que tout ça, ça allait se développer ensemble. Et puis au final, on a même des gens qui nous disent comment faire du sport et qui eux viennent nous le dire avec une blouse blanche. Alors si on est de l'autre côté des Pyrénées, n'est-ce pas Gonzo?
Mais qu'est-ce que j'ai fait encore?
Eh ben on est le meilleur pays du monde parce qu'on a les meilleurs toubibs du monde pour pratiquer le sport.
Ah ben l'Espagne a de bons médecins, si tu veux, je te dise. Ouais.
Voilà. Et donc de bons sportifs. Et puis à côté de ça, si vous consultez nos chers praticiens de l'agglomération hébroïcienne, eux nous disent non, il faut pas faire de sport. Le sport, ça te détruit le corps, etc., etc. Et après tout ça, ça s'enclenche et on tombe dans une grande hypocrisie qui est de dire tous dopés à haut niveau et à petit niveau, faites du sport pour la santé. Alors elle est où la vérité entre les deux? Elle est où? La vérité, c'est ma voisine de gauche qui a 26 ans, 27 ans et qui ressemble déjà à une petite grand-mère avec sa main complètement atrophiée. La vérité, c'est mon bon Gonzalo qui est plus capable d'attraper sa fille dans ses bras le matin parce que...
Elle m'a fait mal ce matin.
J'ai mal au dos, chef.
Il a tellement sauté quand il était basketteur et qu'il s'accrochait au cercle fréquemment parce que c'était un grand dunker, hein, le seul dunker blanc.
Moi, j'arrivais juste à m'accrocher. Effectivement, je m'accrochais comme un imbécile.
Voilà. Donc... on se demande où est la vérité entre le serment d'Hippocrate et... enfin d'ailleurs, ils ont dû boire trop d'Hippocrate, ces braves toubibs, le jour où ils l'ont...
D'Hippocrite.
Voilà. L'hypocrisie du serment d'Hippocrate fait sous Hippocrate. Et puis le coubertinisme qui nous dit « Pratiquez le sport, c'est sain, allons-y. » Ah, voilà.
Allez, on a parlé de Coubertin.
C'est mon ennemi.
Voilà. Donc, votre corps est votre ami, prenez-en soin, amusez-vous, faites du sport. Si vous êtes bon, allez au plus haut niveau, mais évitez la picouse. C'est la conclusion de la chronique. Merci.
Et puis l'autre, il est parti, et je sais pas ce qu'il est parti faire, le patron de sport.
Mais il est pas parti, tu dis n'importe quoi, il était en train de recharger sa binoche. Il salue bien bas les premiers invités, à savoir Loïc et François, qui partent. Et puis bah, nous, on enchaîne en musique, on se retrouve après avec l'ami Bernardo et l'ABCDR du professeur Bernardo.
Thank you.
Eh ben allez, il est quasiment 13h pour vous, auditeurs de Principe Actif. Allez, je vous rappelle rapidement le site internet principeactif.net. Il y a le chat qui fonctionne maintenant. Il y a un podcast éventuellement pour les intéressés. Parfois des photos des émissions, je pense qu'il y en aura là. Et puis voilà, n'hésitez pas à le visiter, il est tout beau, tout neuf.
Et parce que c'était un noir, tu veux pas dire qui c'était?
Non mais vas-y.
C'était King Curtis.
Voilà, merci, j'attendais... que tu sois prêt. Eh bien, monsieur Bernardo, vous êtes parmi nous ?
Ben oui, je suis prêt.
Tu es sous pression même.
Carrément. Et attends, alors... t'as vu derrière qui je passe aussi, Loïc Lantoine, Raoul qui nous fait des chroniques de malade à chaque fois, quoi.
Oui, je suis... faut lui taper dedans, ce mec-là, il sape notre travail.
Ouais. Bon, la lettre F, on va commencer avec Fenerbahçe Spor Kulübü, club omnisport basé à Istanbul, fondé en 1907. La section foot. Ça a été fondé en secret parce que le sultan Abdulhamid II voyait d'un mauvais œil que la jeunesse de son empire s'intéresse à un sport d'expatriés anglais. Mais la popularité est telle que le gouvernement cède et construit un stade sur le cap de Fenerbahçe, qui veut dire jardin du phare, d'où le premier emblème du club.
J'ai une question, Fenerbahçe, c'est bien le stade où tu te prends toujours des canettes, des trucs dans la figure quand tu joues sur le terrain, c'est ça ?
Autour du Bosphore, t'as le choix, hein, de toute façon. Que ce soit côté grec ou côté turc, tu vas en prendre. Hein.
C'est culture locale.
Il y a Jim Bilba, dans un match en Turquie, avait pris des pièces sur la tête et avait traversé une porte vitrée, ce qui l'avait coupé du Final Four européen. Coupé, c'est cas de le dire.
Carrément. Donc, ils évoluent dans un stade qui s'appelle le Soukrou Sarakoglu, qui est le nom de l'ancien...
J'aurais jamais pu dire ce nom.
Soukrou Sarakoglu. Le nom de l'ancien président du club et qui a été éventuellement aussi premier ministre de la Turquie. Donc l'équipe est surnommée les Canaris jaunes, dont les couleurs sont jaune et marine. Ce club Stambouliot, a compté parmi ses rangs Anelka, JJ Okocha, Roberto Carlos et a été entraîné par Gussie Dink, Zico ou Luis Aragonés. Leur plus belle victoire a lieu à Old Trafford en 96. Là, ils ont battu Manchester United et ils ont mis fin à 40 ans d'invincibilité à domicile pour cette équipe. Son club rival est le Galatasaray. Fenerbahçe est le seul club qui a un bilan positif face à Galatasaray. 135 victoires contre 115 défaites.
Ce qui est bien, c'est que tu abordes des points totalement hyper pointus. Du coup, on peut même pas rebondir, on peut même pas dire une connerie parce que c'est hyper pointu. Hein.
Ouais, bon...
Ça, autant de statistiques de qualité me laisse quoi ?
De qualité.
Voilà. Sinon, c'est un club qui est quand même 17 fois champion de Turquie et qui a gagné 4 fois la coupe. Il y a une section basket qui est la plus importante après le foot. La section féminine s'appelle le Fenerbahçe SK. Je vous donnerai pas le nom de la section masculine parce que je serais incapable de le prononcer. Donc la section le Fenerbahçe SK est la plus glorieuse de toutes les équipes du Fenerbahçe Sport Kulübü, la section le club omnisport. Elle a remporté 13 trophées sur 15 possibles. Et il y a aussi une section volleyball. La section masculine gagne le championnat turc en 1908 et la section féminine arrive deuxième en Ligue des Champions 2010.
Avec un Final Four qui s'est disputé à Cannes et qui était superbe à voir, avec une joueuse notamment, enfin Alex, je sais pas si tu...
Si, j'y étais, mais je sais plus comment elle s'appelle, c'est une joueuse...
Osmokrovic.
Voilà, c'est ça. Mais moi je confirme, hein, y avait les supporters du Fenerbahçe, ils étaient tarés. Hein. Ils sont tapés dessus, c'était n'importe quoi.
Ah mais c'est ça le sport, c'est ça le sport quand même.
Et il faut savoir que aussi la présidente de Cannes avait fait faire des affiches pour l'équipe de Cannes qui était en Final Four. On est avec vous, les Canoises, faut gagner la Champions League. Il faut savoir quand même que les Turcs ont payé des... Comment on appelle ça ?
Des affichages publicitaires ?
Ouais, privés, pour mettre des plus grandes affiches que l'équipe de Cannes, en disant c'est Fenerbahçe qui va gagner la Coupe. Et c'était placardé dans tout Cannes. On avait l'impression que c'est quand on arrivait en Turquie, quoi. C'était impressionnant, ils sont...
Ils sont Maboul.
Ouais, c'est... ils sont pas bien. Hein.
Mais c'est non, pas ils des... sont Stambouliotes, pas Maboul.
Non, mais ils sont Kaboul.
Moi, je crois. Non, je crois qu'ils ont, il y a une réelle culture sportive. Ouais, c'est vraiment rentré dans les mœurs de défendre le club, le pays, le maillot, etc.
Avec tous les excès qui vont avec. Mais c'est vrai que là, on parlait du Final Four de la Champions League en volley féminin qui s'est déroulé à Cannes et dans une super ambiance quand même, même
oui.
si c'était un peu
oui,
fou.
Oui, oui, oui.
Ça s'est répondu d'un club à l'autre. Il y a quand même eu le championnat du monde de basket masculin en Turquie au début de l'automne qui était magnifique. Des salles pleines, une ambiance incroyable et un niveau de jeu superbe.
Tout simplement magnifique, même.
Je vous parle de la section athlée rapidement qui a compté dans ses rangs le sprinter américain Justin Gatlin, le Canadien Donovan Bailey et la Slovène Merlène Otte.
Oui, parce que Merlène Otte est slovène maintenant.
Et comme quoi, il y a quand même des sacrées planches à billets en Turquie. Alors, on ne sait pas si c'est fabriqué de l'autre côté de l'Oural chez les Russes ou pas, mais en tout cas, il y a un afflux de fric phénoménal.
Bah, c'est tout pour Fenerbahçe.
C'est dommage parce qu'à une lettre près, la semaine prochaine, t'aurais pu faire Gdynia. Gdynia. Comment on dit?
Gdynia.
Bah, approche-toi du micro.
Gdynia.
C'est en Pologne. C'est l'un des clubs majeurs de volley de basket.
Ah. Bah, écoute.
Bah, peut-être la semaine prochaine. Bon. Bonjour, parce que tu viens d'apparaître au micro par Gdynia. Je sais pas dire. Déjà, j'ai du mal à prononcer les mots français, alors les mots étrangers. Aga, bonjour.
Bonjour.
On va te retrouver tout à l'heure avec Alex pour parler plus largement du big match de ce week-end, où il y a beaucoup de big match ce week-end sur Évreux. Mais on parlera plus largement du vôtre, puis de l'EVB en règle générale. Voir un peu, on n'a pas fait la revue d'effectifs encore de cette année. Vous nous présenterez les anciennes joueuses et les nouvelles. Bernardo, on a fait un club. Je crois que tu as séché sur une ville.
Ouais, j'ai séché sur la ville, il n'y avait rien.
Moi, j'avais Fécamp.
Fécamp, ouais. Moi, j'habitais à côté de Fouqueville quand j'étais petit.
Flamanville.
Il y avait peut-être un club de foot, mais non.
Fauville, juste à côté des Rhônes.
Ouais, allez, voilà. Bon.
Donc ça y est, voilà, ça c'est fait.
Allez, on va attaquer avec
on va attaquer sur un sportif. Dick Fosbury. À tête américaine, et le 6 mars 47.
J'avais dit que tu ferais plaisir à quelqu'un. Je crois qu'il a vu toutes les photos accrochées dans sa maison pendant 25 ans. Et peut-être même encore au-dessus du lit du papa.
J'ai même vu un Super 8 tourné à Mexico, qui a été une révolution dans la vie de ma famille.
Donc, il est célèbre pour avoir popularisé et perfectionné le saut en rouleau dorsal appelé le Fosbury Flop. Qui est quand même un peu bizarre de l'appeler Flop, parce que quand on sait que... pourquoi on utilise cette expression flop, c'est quand même aberrant, quoi.
Vas-y, explique.
Et bah, quand on parle d'un flop, c'est que, voilà, c'est un four, ça a pas marché. Et c'est
un
quand
gros
même...
bide. Voilà. Oui, je pense à toi. Ouais.
Et, enfin, là, on peut parler des t-shirts. T'aurais pas repris un peu, toi, depuis le mois de juin, depuis le mois de mai?
Donc, voilà... Dick Fosbury, donc il se...
La webcam. Il nous faut une webcam, ça fait un moment qu'on la réclame, celle-là.
Il va falloir. Qu'est-ce que je disais? Ça y est, là, vous avez réussi à me perturber. Hein.
Ouais.
Il est sorti, c'est statistique.
On l'a eu, le prof.
Le flop.
On l'a, le flop. Vous êtes trop dissipé, ça va n'importe quoi.
Gonzalo au coin.
Oh non, c'est lui. Et les gars, c'est les vacances, merde. Bon... Alors, il a utilisé la technique du ciseau où il réussissait uniquement à passer 1m62 à 14 ans, quand même. Après, il a essayé la technique du roulant ventral où il sautait 1m80. Et il remarque qu'en s'entraînant, que s'il se retourne et qu'il balance les épaules vers l'arrière, le bassin passe par-dessus et il place plus facilement les barres. C'est ainsi qu'il dépasse 2 mètres. En 63, à un meeting aérien, il utilise cette technique. Et déjà, les juges vérifient et revérifient si son saut peut-être validé. En 65, il remporte un titre junior à 2m01. Là, il fait la connaissance d'un entraîneur, Bernie Wagner, qui le ramène vers le saut ventral. Et là, il plafonne à 1m80 parce qu'il n'a pas le temps de remonter sa jambe d'appel.
C'est un génie, Wagner. Il aurait dû faire de la musique.
C'est ça.
Vous connaissez tous la phrase de Woody Allen? Quand j'entends Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne. Excuse-moi.
Donc, comme il reste sur le saut ventral et que c'est pas terrible, il s'essaie au saut de S en succès et il reprend sa technique de saut dorsal, de rouleau dorsal, pardon, et passe 1m98 avec une sacrée marge. Donc là, son entraîneur se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et en 1967, Fosbury passe 2m10. En janvier 78, il finit premier aux championnats nationaux universitaires en passant 2m13.
60 combien ?
8. Merci. Une année avant 69.
Ouais, mais il me semble que tu avais dit 78. Et il a, 68. Ça n'a pas raté l'oreille aiguisée.
Ah ouais, comme quoi. Il... De capable de faire arène. Deux choses en même temps.
Boire une bière et écouter une
émission. Trois choses. Donc en janvier 78, il finit premier au championnat universitaire.
En combien ?
68.
Comme dirait James Brown, I got you.
Ah, t'en es à 100 dollars là.
Donc il est sélectionné pour partir au JO en faisant un saut à 2m21.
En quelle année ?
En 1968, il part pour Mexico.
Attends, l'autre, fais pas le malin. Samedi, quand tu seras interviewé avec 12 000 caméras, on va venir faire les zouaves derrière. On va voir si tu vas garder la même sérénité.
Tout à fait. Donc il part pour Mexico où sa façon de sauter enthousiasme le public. Il déclenche une grande ferveur et il passe 2m24 à son troisième essai. Dans un premier temps, son saut est refusé. Toujours pareil, les juges vérifient si ce saut, type de saut est légal. Et en fait, il est validé parce que la seule obligation qu'on a en saut à hauteur, c'est de prendre un appel sur un seul pied. Donc ensuite, il a son...
Parce que sur les mains, ça marche pas.
À son retour.
Ça, c'est une dédicace à Thomas Bouaille, le voisin Sotvillé, champion du monde de gym.
Tout à fait, on en reviendra peut-être tout à l'heure à la fin.
Donc à son retour, il est fêté en héros. Il apprécie pas trop cette mise en avant parce qu'il était pas trop patriotique. Tiste.
Tic.
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 Tic. Allez, à sujet.
Tac. Et pend dans ta gueule. Ah, pardon. Oh.
Et ensuite, il échoue pour se qualifier au JO de Munich. Ensuite, en plus, il obtient un diplôme d'ingénieur. Donc, du coup, l'athlète, ça devient du loisir pour lui. Par contre, grâce à lui, ça a révolutionné le saut en hauteur parce que c'est ce qui a développé la pratique de ce type de saut. Du coup, le record du monde est passé de 2m28 à 2m45 avec Javier Sotomayor. Record qui date de 1980.
La webcam.
Record qui date de 1993 et qui n'est absolument pas battu depuis.
Allez.
Et du coup, le saut ventral, c'est terminé.
Alors, enchaîne en musique, c'est quoi ton...
Attends, qu'est-ce que tu veux dire pour ta veine ?
Allez, pour ta veine, vas-y.
Bah, moi, je suis désolé, j'ai ma petite larme perso qui coule là, quand je l'entends parler de Fosbury. Donc déjà, je confirme, le gars, il était noyé dans un magma politique à ce moment-là. Hein. 68, c'est quand même autre chose. Hein. Mm-hmm. C'est des mecs avec un point noir levé sur un podium. Des blacks, c'est du jamais vu. Bon, ça leur a pas forcément réussi. Il y en a un qui est en train de vendre sa médaille là actuellement aux enchères sur eBay. Il s'appelle Tommy Smith, je crois. Le gant, il peut pas le vendre, il l'a perdu. Bon, bref, la vie est pas facile.
Mais ils sont cognés avec Di Carlos, ils sont quand même cognés 10 ans de chômage. C'est-à-dire que tu avais une carrière, ils pouvaient faire des meetings, etc. 10 ans de chômage. Donc ça fait cher le point quand même.
Ouais. Non, c'est des gars qui se sont engagés. Lui, c'est clair qu'il était dans une autre recherche. C'était un vrai hippie. Donc, la réussite, la gloire, l'argent, c'était pas son trip. Il avait peut-être d'autres trips d'ailleurs, ça on le saura jamais. Non, après, à titre perso, tu disais que ça avait révolutionné son hauteur. J'ai dit en déconnant, mais c'était pas en déconnant que ça avait révolutionné la vie de ma famille quelque part. Moi, j'ai un mec qui s'est planté devant sa télé en 68, qui a filmé avec sa caméra Super 8 les images du concours du saut en hauteur.
Et à partir de là, il a fait des kilogrammes.
Et à partir de là, il a découpé ça, il a regardé parce que c'était révolutionnaire, c'était nouveau. Ouais. Et ce gars qui avait jamais sauté en hauteur de sa vie s'est pris de passion pour ce mouvement, pour ce geste, comme des gamins se prennent de passion pour le skate en voyant un tricks ou pour le snowboard ou pour le BMX. Et ben voilà, il est parti là-dessus. Et ça nous a valu quand même quelques petits champions à Évreux, hein, des gens... qui ont quand même fait les JO, comme Jacques Aletti, ou qui ont fait partie de l'équipe de France, qui ont été podium sur les championnats de France, comme Isabelle Jeanne, Chevalier, etc. Il y en a toute une dynastie. Il y a eu des recordman de France à l'appel.
Dans Philippe les catégories,
Martin, Claude Bourmeau, Guy Fleury. Minim, Cadet, Junior. Voilà, c'est tout. C'était juste un petit clin d'œil. Si tu nous entends, monsieur le râleur bedonnant qui est actuellement en train de sévir en Tunisie, Merci pour les plans de préparation physique de ce matin qu'on n'a pas eu. Et puis on t'adore.
Ça nous a arrangé, hein.
Allez, on essaiera peut-être de le faire venir un jour pour parler. Mais
faut 4 heures. Faut 4 heures.
Mais on aura une spéciale. Allez, on enchaîne avec un F. Qu'est-ce que t'as trouvé, la Funky Family?
Raté, les Foo Fighters avec Breakout. You make me dizzy, running circles in my head. One of these days I'll chase you down. Well, look who's going crazy now. I'm face to face, my friend. Better get out. You know you make me break.
C'était les Foo Fighters avec, si ma mémoire est bonne,
Breakout.
Ouais, yes. Breakout, mais Dave Grohl, ancien batteur.
De Nirvana.
Et voilà, allez.
J'allais dire d'Adidas.
Et ben on va parler volleyball, on va parler notamment du match de ce week-end où vous recevez le monument du volley français féminin, à savoir... le RC Cannes avec ses nombreuses... Vas-y, Gonzalo.
À savoir...
ses nombreuses internationales et puis son palmarès plus que florissant.
Les nombreuses internationales... Kazakh, ouzbek...
Oui.
Et une hébreuxienne. Une jeune fille passée par hébreu.
Ex.
Ex, ça.
C'est ce que j'ai dit.
Non, on parle de Cannes, on parle pas d'ex aujourd'hui, messieurs. Allez.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Ah, il y a bien Aix dans la poule. Non?
Venel.
Aix-Venel, voilà. Bon, je suis un peu quand même.
Oui.
Alors.
Ah, c'est une blague de rugbyman, on comprend pas tout.
Ah, mais ouais,
pas tout, hein.
Ah, ça tourne pas rond chez eux, hein.
Pas bien forcément. Vu, Fallait une, ça fait une demi-heure qu'elle essayait de la placer. Allez, on va parler donc plus de l'EVB, de l'équipe de cette année. On a fait la même chose avec le basket l'autre fois, à savoir, Aga, tu vas nous présenter peut-être les nouvelles joueuses qui sont arrivées de cette année. Et puis Alex, tu vas nous présenter les anciennes. Donc tu vas commencer.
Bah, je les connais pas, les anciennes.
Bah, tu les connais depuis quelques mois maintenant déjà.
Alors, en ancienne joueuse, il y a Aga, qui est polonaise. Bon, son nom, je le dis pas parce que je peux pas le prononcer.
Vas-y, Aga, toi, dis-le
oui.
Nous.
Oui, je voulais faire un commentaire que c'est dur pour tous les Français de dire mon nom.
Donc, dis-le nous qu'on l'entende correctement. Après, j'essaierai de passer l'enregistrement pour l'enregistrer.
Moi, quand je vis déjà 5 ans en France, j'ai deux façons de dire mon nom. Spécialement pour les Français, c'est Drewiczuk. Ça entend mieux. Et après, en Pologne, moi, je suis Drzewiczuk.
Ah ouais, regardez la première.
Il y a des trucs qui se passent dans la bouche que j'arrive pas à faire.
Donc voilà, après il y a Ludi da Silva, la brésilienne.
Voilà, tu peux dire les postes un peu, on avait...
Ah oui, alors pardon, alors Aga elle est centrale, Ludi elle est poste 4, il y a Théré qui est tahitienne, qui est poste 4 aussi, elle est hier, et puis qui c'est qui est resté?
Mariam. Elle a une petite sœur.
Mariam, la sénégalaise, voilà. Qui est centrale aussi, et c'est tout.
Gaël.
Ah oui, et Gaël Molinger aussi qui est passeuse.
Voilà, donc...
Visiblement, elle connaît mieux Béchu et le rugbyman que les joueuses de sa propre équipe, celle-là.
Et donc, Aga, toi, tu vas nous présenter rapidement, pareil, les joueuses de cette année.
Oui, je commence par Alexandra, qui est ici avec moi, la libero. Après, poste central, c'est Tracy Valorine. Après, sœur de Gaël, qui était déjà avec nous, c'est Julie Molinger. On a aussi...
Gorana.
Gorana, oui, voilà. Gorana Maricic, qui est en poste 4.
Serbe,
oui, elle est serbe. C'est tout, je pense.
Oui, je crois.
Non, vous avez oublié quelqu'un. Mais vous ne faites peut-être pas rêver en ce moment.
Kayla.
Ah, oui, j'ai regardé, t'as pas eu... En parlant de samedi dernier, t'as pas eu beaucoup de ballons, dis donc, 8 en attaque.
Et ça sent le règlement de compte, il y en a une qui l'oublie le samedi, elle l'oublie le mardi.
8 ballons.
Oui, 8 ballons. En attaque, on centre.
C'est ce que j'ai touché.
C'est pas beaucoup, ouais.
C'est ce que j'ai touché en
fin de ligne. Il y a des remplaçants qui touchent plus que ça en 20 minutes au rugby.
Ouais, hein. Voilà, et déjà en première ligne.
Bon, qu'est-ce que vous pensez de votre début de saison?
Allez, ouais, c'est quoi la saison?
Début de saison, là vous êtes à 2-2, 2 victoires, 2 défaites. Ça commence fort, 2 victoires
On a commencé trop fort en fait. On aurait peut-être dû commencer moins fort, mais je pense qu'on a bien commencé. Je pense qu'on a pris un joker et on l'a grillé. Voilà. Je pense qu'au final, on est quand même dans les clous. Pour moi.
Mais le tournant, pas le tournant, parce qu'on a 4 matchs. Aga, qu'est-ce que tu penses du match de Nancy? C'est pas là où tout se crispe?
Une grande déception pour moi. Parce que je pensais qu'on est quand même plus forte qu'on l'équipe. Et je pense encore qu'on est plus forte. Et là-bas, quelque chose n'a pas marché. On aurait dû gagner ce match. Ça c'est sûr.
D'accord. Ouais. Bon. Chef,
j'ai pas trop, j'ai suivi un peu comme ça, mais moi la question que je me pose c'est comment après deux revers consécutifs et avec des entraînements on va dire un peu galvaudés en ce moment, apparemment il y a des blessés, où il y a de la casse,
oui.
De ton côté, mais je crois que t'es pas trop la seule à être en délicatesse, comment on prépare justement la réception d'un gros morceau qui est, où c'est une... Je pense que ça va être une belle fête pour le volley borussien, mais faut pas que ça cache le reste de la saison.
Et vas-y, sors de ton précaré. Pas pour le volley borussien du gland. Le jour où tu recevras le Munster à Évreux, ce sera une fête pour le sport borussien, je crois, non?
Ouais, non, okay. Mais pour le sport en général.
Remets les choses à leur place.
Allez, calme-toi, c'est une belle... Mais voilà, c'est une belle vitrine, mais ça reste qu'un match particulier où Cannes... je pense que personne vous en voudra si vous perdez. Par contre, c'est comment on se sert de ce match.
En même temps, faut montrer une belle image. C'est-à-dire que ça va être compliqué pour vous, en fait, non? Un match comme ça, parce que il est difficile à aborder, il y a une salle pleine qui n'est pas la vôtre, et en plus, il faut montrer de belles choses. C'est compliqué ou pas?
Oui, c'est sûr que c'est compliqué, mais après, je pense que c'est même... C'est compliqué et c'est à la fois facile parce qu'en fait, au final, on se pose pas de questions, quoi. On sait que Cannes, c'est fort et au final, on dit ok, c'est fort, mais c'est tout. Maintenant, on lâche tout et on se pose plus de questions et puis on joue, quoi. Donc voilà. Et puis, je pense que si effectivement, en plus, on joue devant une salle pleine, je pense que ça, au contraire, ça donne un petit peu plus de. Ça nous fait pousser les ailes un petit peu, quoi.
Toi, Agathe, tu l'as vécu l'année dernière. En plus, t'as vécu, ça fait combien, 3 années maintenant que tu es à Évreux?
Oui.
T'as vécu la montée.
3e saison pour moi. Oui, j'ai vécu ça l'année dernière. C'était extraordinaire. Avec le match comme ça, on n'a pas besoin de se motiver. Ça vient tout seul. L'adrénaline est vraiment augmentée. Et moi, je dois dire qu'il y a aussi un peu de stress. De se montrer bien avec notre public, ne pas décevoir, de lui donner un bon spectacle. Mais comme je dis, il y a beaucoup d'émotions sur le terrain, et comme on voit tous ces spectateurs qui sont venus nous voir, nous, l'équipe qui se bat, on fait tout pour réaliser ça.
Ils viennent voir Rava surtout.
Toi, Alex, qui est dans le métier en pro depuis quelques années, qu'est-ce que tu penses de l'atmosphère qui, ouais, bien sûr, tu n'as fait qu'un match encore, mais qu'est-ce que tu penses de l'atmosphère qui se dégage d'une rencontre à Évreux?
Aucune idée. Franchement, je sais pas. On a fait un match à domicile, il n'y avait pas énormément de monde, donc j'ai un peu de mal à m'imaginer, quoi. Aucune idée. J'ai vu le match de basket. La semaine dernière, donc j'ai vu un peu l'ambiance qu'il y avait dans la salle. Maintenant, est-ce que ça va être la même chose? Je sais pas du tout, quoi.
Faut dire que t'es un peu électrique aussi en même temps quand t'es dans un terrain. J'ai lu ta capitaine qui dit: je suis vachement content, il y a une autre folle avec moi qui crie, qui hurle à chaque point.
Ah, oh, mais c'est mon côté bretonne.
Effectivement.
Tous des extrémistes là-bas.
Oui.
Non, mais je sais pas, Gonzalo, toi qui suis et qui arpente régulièrement les salles, tu as peut-être, ou je sais, tu as vu, il y a eu qu'un match à domicile d'Évreux, mais quelle différence tu fais entre cette équipe de cette année, la version 2010-2011, et celle de l'an passé?
Je crois que le problème vient de la préparation, elle a été tronquée et cette équipe, elle ne bosse pas assez, enfin elle bosse pas assez au complet, et ça se ressent beaucoup. Il y a une pièce majeure, enfin deux pièces majeures qui sont parties. Leïla Tufua et Svetlana Doukoulé qui s'étaient imposées également au centre. Elles formaient une paire remarquable avec Aga. C'était quand même une paire assez monstrueuse. C'était à noter. Leïla, bon, qui a eu des soucis ici, mais qui montait en température dès qu'il y avait une atmosphère un peu chaude. Son niveau montait au fil de... Enfin, il lui fallait une adrénaline majeure pour bien évoluer. Et là, cette année, Mariem Diagne au centre s'est blessée. Tracy Valérin, la troisième centrale, s'est blessée. Et la première passeuse, Gaëlle Molinger, est blessée quasiment depuis le début de la saison. Et puis, Kayla est sur des hauts et des bas. Donc, ce qui fait que ça donne un rendement de haut, de bas. C'est-à-dire deux matchs pleins. Enfin, un match plein au Canet contre le Canet avec une grosse énergie. Elles ont fait le taf contre Stade Français, ce qui n'était pas évident, contre une équipe qui n'avait vraiment rien à perdre, avec une équipe montée de broc. Elles ont fait le taf, 3-0, sans jamais avoir peur. Et puis, bah, ça vrille à Nancy, où il y a une victoire possible. Et depuis, pareil à Istres, un premier set où il y a une possibilité de gagner. Et après, ça vrille quand même, 14 et 13, ça fait mal aux dents. Hein. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe sur le terrain, 14-13, ça fait mal, non?
14-13.
Ou 13-14?
Non, mais...
14 au deuxième set et 13 au troisième.
Oui. Oui, ça fait mal. Je peux dire même que ça fait... C'est honteux. Ça fait honte. J'ai vraiment espéré de se battre plus avec cette équipe, mais voilà, peut-être c'est ça qu'on n'est pas encore en collectif. On ne pourrait pas essayer entre nous à fond.
Et toi, comment tu vis ce début de saison, toi?
Moi, je sais que pas très bien vécu quand même les deux dernières défaites. Surtout que je suis assez compétitrice et j'ai horreur de perdre. Donc voilà, puis j'ai pas eu trop l'habitude non plus à Albi de perdre souvent. Donc je jouais toujours un peu le tableau. Donc souvent quand j'arrivais à Nancy, j'arrivais un peu sereine quand même. Je disais bon allez c'est Nancy, on fait la base et puis on déroule quoi. Et donc c'est vrai que ouais, fait deux matchs là, pris une claque quand même. Donc non, je suis pas très contente non.
Et ouais, on l'a expliqué un peu par le comment dire le les blessures, mais cette inconstance entre les premiers matchs et là, est-ce que c'est la seule raison ou est-ce que où il y a voilà où le groupe il vit bien, il y a pas de soucis plus que ça, ou dans le sport féminin on a souvent l'habitude de parler de difficultés dans les groupes à manager des filles voilà, c'est jamais trop évident.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Bah pour avoir entraîné un peu des équipes féminines, c'est jamais évident, il y a comment dire des querelles intestines plus difficiles. Non, à...
Tout le monde trouve que le groupe vit bien.
Non, mais moi, je sais pas, donc je pose la question.
Non, je confirme, hein, on rigole bien quand même.
Ah bon, bah voilà, déjà, c'est déjà un truc important.
Bah, le groupe vit bien, c'est pas une des sales rengaines qui avait fait l'objet de la chronique la dernière fois sur les communications langue de bois des footballeurs.
Ah, par alors tiens, on dit bien.
Le groupe vit bien.
Non, mais...
On rigole bien.
Alors bah tiens, justement par rapport à cette chronique de la semaine dernière, on avait eu j'ai relevé dans la presse cette semaine Franck Dumas qui a sorti deux très bonnes phrases qui devraient te ravir.
Il y en a une dans la presse aujourd'hui aussi.
Oui, bah les deux ça doit être ces deux-ci. La première au sujet de son équipe et de la prestation à Valenciennes, il fait j'ai voulu leur faire peur, j'aurais montré leur match à Valenciennes, j'avais pas l'exorciste. Voilà, donc pour commenter leur prestation. Qu'est-ce que t'en penses? Langue de bois, pas langue de bois?
Non. Dumas, il a cassé le moule. Il n'y en a plus qu'un comme lui.
Et l'autre?
Il en a fait une belle aujourd'hui aussi.
Ah, je l'ai noté. Vous faites un sujet sur Nicolas Seub. Pas sur El Arabi. C'est dommage, j'avais prévu une petite fille sur El Arabi. Ce matin, il s'est levé, il a fait pipi, il a bu un café, puis il s'est habillé, il a mis sa veste. Et voilà.
Et vous avez entendu Jérémy Bréchet, le capitaine de Sochaux?
Non.
Donc ils ont pris 3-1 à domicile contre Toulouse. Donc on lui tend le micro à la fin du match, au lieu d'avoir un discours convenu, il dit « on était cons, on a joué comme des cons et on mérite cette défaite de cons ». Voilà, moi j'ai trouvé ça, ça sortait quand même du cliché. Hein.
Mais ouais, mais c'est tellement rare, c'est une éclaircie dans un ciel tout gris, tout nuageux qui dure 2 ans ininterrompus. Et après quand ça explose, comme les mecs ont l'habitude de rien dire, quand ça explose on se retrouve dans des situations comme cet été en Afrique du Sud. Donc voilà, ça nous paraît remarquable maintenant... Je sais pas, à tout niveau, tout sportif, quand il sort d'un terrain et qu'il a été nul, en général, il s'auto-flagelle, ou alors il dit que c'est la faute de l'autre en face, qu'il a triché, ou machin, mais c'est pas du convenu, quoi. Du convenant, peut-être, mais pas du convenu. Dédicace, mon Jean-Claude. Et voilà. Donc, bon, ça devient inintéressant, toutes ces émissions.
Allez, on va repartir en musique avec bah, justement Loïc Lantoine qui était tout à l'heure dans le studio. Le titre c'est Badaboom, c'est ce qu'on dit régulièrement le samedi vers 13h sur Principe Actif chez les Barboulos, plus ou moins.
Non, c'est Tataboom.
Oui, je sais bien. Et puis Badaboom, et bah c'est peut-être ce qui se passera sur le terrain avec des gros matchs ce week-end. On reparlera de volley. Allez, musique.
On a dû. Brouillard dans le cigare, mais on refuse d'être dans le cirage. Quand dans le bordel on s'égare, c'est pas qu'on essaye pas d'être sage. On en trouve encore à nous dire qu'on a rien compris à la vie. Arrête un peu, on va rire ou explique-nous si t'as envie. C'est vachement compliqué d'être né, mais c'est marrant d'être vivant. On est tout le temps étonné et puis... Et puis on sera pas mort avant. Alors, c'est quoi? C'est ça la vie, hein? Bah ça résonne. Boum, boum, badaboum, un coup par terre, un coup de boum. Boum, badaboum, écoutez bien le théâtre. Boum, boum, badaboum, tu pioches dans l'or ou dans la boum. Boum, badaboum, t'es calme ou bien. Boum, boum. Badaboum. Si on sait pas tout le temps bien faire, c'est qu'on comprend rien au bazar d'un bon dieu ou d'un Lucifer. C'est quand que c'est bien, c'est quand que c'est marre. Alors ben devine. Même des fois où on s'en doute, on danse dans un champ de mine qui a 3 milliards de routes. Peut-être un corps un palpitant. Et démerdez-vous mes chéris, on n'est pas armé pour longtemps. Mais j'ai un pote qui dit que ça suffit. L'Arjos. Alors, c'est quoi? C'est ça la vie? Bah ça résonne. Boum, boum, Padaboum, un coup par terre, un coup de boum, boum. Padaboum, un coup t'es bien loté à boum, boum. Padaboum, tu pioches dans l'or, dans la boum, boum. Padaboum, t'es calme ou bien boum, boum. Padaboum. Ça empêche pas de dire bonjour, ça empêche pas les éclats de rire. Je te parle pas des histoires d'amour, du poulet qu'on a fait cuire. On comprend rien, mais on y va, et c'est là que ça devient beau. C'est parce qu'on est tous dans le même cas, faut avouer que c'est rigolo. Alors si tu parles, je me tais, et puis si tu ris, ben je pleure. Faut juste qu'on soit et tout ça, s'aimer. À part machin là, et sa sœur. Alors, c'est quoi? C'est ça la vie? Bah ça résonne. Badaboum, un coup par terre, un coup de boum, boum. Badaboum, un coup t'es bien le thé à boum, boum. Badaboum, tu pioches dans l'or ou dans la boum, boum. Badaboum, ta tête t'es calme ou bien boum, ba boum, ba boum. Aïe 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 aïe. Badaboum.
Badaboum.
Badaboum. Allez, c'était Loïc Lantoine.
Avec donc, une belle discussion hors micro qui restera hors micro.
Hors micro. Allez, on va parler du match de samedi. On va y revenir. Donc, ça sera à la salle Omnisport devant, on espère, plus de monde que l'année dernière. Donc, il faut dépasser les 2892 personnes. Non, 2200, allez. Soyons sérieux. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. C'est l'occasion de voir un beau match de hand dans une salle sympathique.
De hand?
De voler. Je suis en
quelle année?
C'est 18.
Voilà. Allez, un beau match de volley. Voilà, pour parler du volley. Et puis on y retrouvera sur le bord de touche un personnage qui avait pas. Si, sur le banc de touche adverse.
Ah.
Un personnage qui nous avait laissé une sensation particulière l'année dernière par son arrogance, on va dire.
C'était génial.
Des échanges de regards tueurs.
Entre les deux entraîneurs, celui d'Evreux et celui de Cannes, c'était génial. Surtout quand Evreux a tutoyé Cannes à 23, ils se sont insultés, les yeux dans les yeux, en train de s'insulter. Moi, je trouve que c'est génial. Du coup, plus il y avait d'insultes venant du camp évreuxien, plus les joueuses s'électrisaient. Non, c'était très bien.
Toi, Alex, qui l'a côtoyé, Monsieur Fang, c'est ça, je crois.
Oui. Yann Fang. Moi, je l'ai eu 3 mois comme entraîneur en équipe de France, et parce qu'il avait repris, il avait fait l'intérim là en équipe de France pour les championnats d'Europe. Et c'est vrai que c'est un personnage très assez atypique quand même. Donc c'est assez marrant parce qu'au début, on comprend rien ce qu'il dit, parce que c'est un mélange de chinois, français, on ne sait pas trop. Mais
rappelle-nous depuis combien de temps ce monsieur est en France?
Ouf, je sais pas, 20 ans, 25 ans.
Et on comprend toujours pas ce qu'il dit?
Si, par contre, au bout d'une semaine, 15 jours, on comprend.
Ah oui, quand tu achètes un décodeur et que tu te branches. Tu
veux, oui, non. Ouais. Mais de toute façon, il suffit juste de regarder ses yeux. Hein. C'est les yeux noirs et puis qui commence à t'insulter, tu sais pourquoi. Mais non, mais après, par contre, c'est un très grand technicien. Et autant il peut être méchant à l'entraînement ou sur un bord de terrain, et autant il peut être très sympa à l'extérieur. Il fait bien la part des choses et c'est quelqu'un que j'apprécie, moi.
C'est vraiment un grand entraîneur, parce que j'imagine, oui, que certes il a un matos incroyable.
C'est sûr qu'il a surtout, à Cannes il a des bonnes joueuses, de toute façon il a l'argent pour acheter des bonnes joueuses, mais moi je sais qu'en 3 mois avec lui, je pense que j'avais autant appris qu'en 6 ans à Albi, en 3 mois.
Petite dédicace à l'entraîneur d'Albi.
Et oui, s'il m'entend.
Aux entraîneurs d'Albi.
Non, pas haut, mais...
Ah bah si, t'as dit 6 ans, ouais, alors Jean-Marc, si tu nous entends...
Non, à l'exception de Jean-Marc.
On te salue, on t'embrasse.
À l'exception de Jean-Marc.
Quand t'as tête d'ampoule, c'est pareil, je sais pas si tu capes la radio d'entendre, mais on pense à toi.
Attendez, ne rigolez pas, j'ai un message sur le chat qui vient du bassin d'Arcachon, d'Angèle, qui est contente d'écouter le Café des Sports. Donc,
faut pas dire des conneries sur les Molinger, alors, parce que la famille est du côté de Bordeaux.
Effectivement, c'est vrai.
Voilà, donc on est écouté un peu partout en France.
Mais non, mais effectivement, il est très très fort techniquement. Très fort.
Et pour toi, entraîneur ou coach?
Ce entraîneur. Monsieur,
entraîneur définitivement?
Ouais, entraîneur, pas coach.
Je sais pas si on peut y venir. Est-ce que toi, tu fais une différence entre l'entraîneur et le coach, Manu?
Bah, c'est évident, oui.
Ouais, pour Cannes, il y en a une majeure. C'est le nombre de titres au niveau européen.
si Fang était autre chose qu'un entraîneur, ils auraient plus de titres.
Voilà. Tu, bah, en parlant d'exemples célèbres, tu vois un Ferguson. Ferguson, c'est un coach.
Non, manager.
C'est un manager. Il va pas le lundi matin, il met pas les bottes ni les crampons pour aller sur le stade. Ouais, avant, il y avait Queiroz, je parle pas très bien le portugais, qui lui bossait avec un ou deux assistants. Lui, il arrive le samedi après-midi avec le costard et puis voilà. Comme il y a dans le basket américain, c'est pareil. Là où est parti notre ami Damienski, Phil Jackson, il n'entraîne pas. Il est dans les tribunes et puis il fait toc, 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 il reprend ses assistants. Et lui, il est là pour coacher le soir de match.
Mais je pense que justement, l'éclairage d'Alex, il peut être marrant là-dessus parce que je crois que tu as une double expérience. On parle de toi en tant que volleyeuse professionnelle, mais tu as une expérience dans le monde de l'entreprise aussi.
Oui, mais c'est quoi le rapport là? Bah,
le rapport, c'est il parle de grand manager de club professionnel.
Ah oui.
Merci de t'endormir, hein, c'est un cliché. qui gère des structures professionnelles avec moult salariés, avec une politique à long terme. Et on compare avec des entraîneurs de club lambda.
Mais c'est la même chose, effectivement. J'ai fait des études dans les ressources humaines et j'ai travaillé 8 mois à...
Non, faut pas les amis des travailleurs.
Tu sais, nous, on est plutôt comme ça. Hein.
Et donc, effectivement, je
travaille. T'as pas joué au rugby, toi?
Je sais pas si vous avez vu la couleur du studio, c'est rouge, j'en sais pas par hasard.
Rouge et noir.
Et oui, donc j'ai travaillé, quand je me suis blessée, j'ai préféré aller travailler plutôt de rester en accident de travail. Et j'ai travaillé dans une direction des ressources humaines à la mairie d'Albi. Donc, je travaillais essentiellement avec la DRH et le DRH adjoint. Et voilà, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Et oui, c'est ça, de toute façon, c'est entraîneur, manager, c'est un peu le même principe, hein. Manager une ressource humaine.
Et Aga, Manu Fouché, alors, plus entraîneur ou plus manager?
Les deux ensemble. Je dirais que c'est le cœur de l'Evry Volleyball. Ça s'est tout commencé par lui, il est tout le temps coach, l'entraîneur, manager en même temps.
Le conducteur.
Aussi.
Diversement apprécié, il paraît, justement, le conducteur.
Si vous avez des soucis pour aller à Nantes, on connaît des itinéraires très courts.
Comme le TGV.
Voilà. Enfin bon, c'est mieux que ceux qui se prennent un rocher en marche arrière à deux à l'heure.
Et dans ce genre de conneries, on peut parler de ceux qui se prennent une bite en acier sur le port de Bastia ou je sais pas quoi.
Pas de cul à l'antenne, on a dit.
Bon,
on arrête le perso, on a dit. Pas les affaires, pas le perso.
Allez, pour revenir donc au
pas
match.
Les mamans.
Allez, pour revenir au match donc en face de Cannes peut-être.
Ouais. J'avais une question pour Aga. L'année dernière, tu as joué Cannes. Quelle est la joueuse en face qui t'avait impressionné?
Bon, peut-être ça va être pas une réponse originale, mais c'est bien sûr Victoria Radva.
Pourquoi?
Parce que c'est un personnage. C'est une femme qui a déjà dépassé 30 ans, qui a accouché 2 enfants, qui vit dans un pays pas la sienne. Et qui joue très très bon volleyball. Elle a un caractère leader. Et voilà, c'est pas seulement une très bonne joueuse. C'est autant ça se voit qu'elle est forte.
Donc c'est la femme plus que la joueuse qui t'a impressionné sur la durée plus que sur le match.
Oui, en général, oui.
Et est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait t'inspirer dans ta carrière, justement?
On n'est pas pareil, moi et elle, parce qu'elle elle est très publique, comme tu as dit une fois, que c'est une très bonne image de volleyball française.
Mais je pensais par rapport à sa longévité dans un club, par rapport au fait de s'installer dans un pays autre que le sien.
Il veut te faire signer 10 ans, quoi.
Qui ça?
Je sais pas. Non, moi je sais que un jour je vais retourner en Pologne. Alors.
Et moi en Bretagne.
Moi, enfin, il y a deux choses.
Toi où?
Moi, je voudrais aller à Albi, mais ils veulent pas de moi. Mon rêve, c'est d'habiter à Albi et travailler.
Albi.
Ah ouais, travailler. Bon, on en parlera après. Non, Victor Jarava, c'est effectivement une publicité vivante pour le volley. Elle est restée une demi-heure après la fin du match à pousser les ballons avec les gamines, à prendre des photos, mais avec un sourire et une gentillesse. Quand on voit des sportifs, c'est l'anti. Ce qu'on a parlé tout l'été avec le football. C'est l'anti joueuse, enfin joueur de football. Elle a passé vraiment une plombe. Elle disait bah, j'ai froid, faut que j'aille me doucher, je suis en retard, j'ai le TGV. Elle a passé du temps avec les mamans, les gamins, etc., à pousser des ballons, à faire semblant de réceptionner ou d'attaquer. Elle a été formidable. Il y avait même des gens qui ont été pris en photo, des élus, même des journalistes. Pas moi. Mais elle est magnifique, quoi. C'est une publicité vivante pour ce sport. Je parle pas de sa beauté, etc. Elle rayonne.
Tu peux étendre ça à l'équipe de Cannes dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est des joueuses qui sont irritantes à jouer. On les voit contester en permanence, etc. Elles font pas preuve d'énormément d'élégance sur le terrain. Sauf quand elles gagnent. Mais par contre, sur tout ce qui est autour du match, c'est de l'ultra professionnalisme, mais pas au sens rabat-joie, etc. C'est que les filles savent faire, elles le font bien, elles le font avec sourire, apparemment elles le font avec plaisir. En tout cas, elles assument leur rôle de porte-drapeau du volley français, porte-drapeau du volley féminin, et à travers un calendrier aussi qui est quand même vachement plus joli à regarder que celui de tes copains.
Ah bah je sais pas, je le regarde pas alors comme ça, je gagne mon temps. Désolé, je regarde pas trop les mecs à poil, hein. Voilà. C'est une réalité.
Et puis moi j'adorais...
Alex, pas de commentaire là-dessus?
Si, il y a Karabatic cette année.
Ah, au moins des vrais sportifs.
Et puis il y avait Marchenko, moi j'ai adoré cette joueuse, je trouve qu'il y a un potentiel de progression dingue, qui est déjà très très forte.
Là tu reviens sur le terrain, mais ouais, en tout cas c'est vrai que sur tout ce qui est autour... l'après-match, je pense que tous les gens qui étaient présents l'année dernière à la salle Omnisports s'en souviendront. Tous ceux qui ont pu participer au banquet d'après-match s'en souviendront aussi. Elles avaient été extra au niveau de l'attitude. Et même Fang et ses colères habituelles, une fois qu'il a un verre à la main, est quelqu'un de très agréable.
Allez, on va...
On vient de recevoir un message.
Du Jam, voilà, qui
nous dit... La ravissante Rava, effectivement.
On va fermer ce Café des Sports.
Superbe Café des Sports.
Café des Sports mouvementé aujourd'hui. On n'oublie pas de saluer l'ami...
Attends, merci à Aga qui a fait l'effort. C'est pas facile du tout. J'aurais beau bosser 5 ans en Pologne, je serais incapable de faire ce que tu viens de faire.
Facile.
Merci beaucoup.
De rien.
Par contre, Alex, on te remercie.
Allez, je vous en prie. On remercie Alex et Aga donc de leur venue.
Attends, on va avoir un plan avec la DRH d'Albi. C'était une excellente émission.
Loïc et Françoise pour la première partie. On ne salue pas Damienski et Dave qui étaient absents.
Les lâches. Les couards, comme dirait François.
Juste pour vous rappeler que ce soir, l'ALM joue en Coupe de France à Rouen. Que vendredi soir, vous pourrez aller voir l'ALM contre ce même SPO en championnat. Samedi soir, vous pourrez évidemment, on en a parlé très largement, voir le VB contre le RC Cannes. Non, RC, c'est Racing Club de Cannes, hein, non pas Rugby Club de Cannes. Et dimanche, il y a du pousse-titrouille, mais en déplacement pour la Coupe de France. Dernière info notoire, le Café des Sports est fermé la semaine prochaine pour cause de, allez on va le dire, vacances. Voilà, donc pas de Café des Sports la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller podcaster les émissions maintenant si vous n'avez pu les entendre. C'est possible. Allez, salut Gonzalo.
Au revoir et merci.
Salut Raoul.
Salut Grand Seb.
Salut.
Merci Alex, salut.
Au revoir.
Au revoir Aga.
Au revoir.
Salut Raoul.
Oui, au revoir.
Christophe 2016, c'est un génie!
Essaye! Oui. Pas vrai!
Chut! Les massues, une fois pacifiées, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but!
Et troisième
et but!
But
d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute!
Oh là là, chute de Mélanqui juste devant Fong, Fong qui est parti dans le terrain!
Ça y est, Chapot est parti! L'Express, le TGV est parti, Chapot! Le Serpentine, record du monde!
Pédalage et défonçage, sans les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin.